Je suis tout à fait confus d'apparaître devant vous en tant que spécialiste de tant de monstres. Mais il faut dire que ce qui m'a passionné, à part les mal-aimés de l'histoire, c'est de chercher toujours derrière les mythes les personnages historiques. Barbe Bleue en est un, et derrière lui, il y a Gilles de Rais, un personnage historique français. Dracula est un autre, c'est un mythe tout récent, parce qu'il est devenu célèbre à partir de 1897, lorsqu'un auteur anglais, Bram Stoker, a sorti son roman et qui fait de lui le roi des vampires, l'empereur en anglais des vampires, un personnage situé par Bram Stoker en Transylvanie du Nord et avec quelques indications géographiques. Dracula, tout comme Barbe Bleue, a une diffusion mondiale en tant que mythe. Et derrière cela, le personnage historique est resté tout à fait dans l'ombre, puisqu'il s'agissait d'un prince roumain du XVe siècle qui portait ce nom-là et qui n'intéressait pas et n'intéresse pas grand monde, vu que la Valachie, dont il a été prince au XVe siècle, et donc voilà une de ses reproductions, était un petit pays, à peu près 75 000 km carrés. Voilà, Tsara Romanesque, c'est le pays des Roumains. Pays des Roumains ou Valachie, cela demande une petite explication. Vous voyez, c'est le Danube, le bas Danube et les Carpates. À droite, il y a la mer Noire. Au sud, la Bulgarie, à l'époque l'Empire ottoman. Au nord, la Transylvanie, c'est-à-dire le royaume de Hongrie. Et au nord-est, la Moldavie ou Moldova, un deuxième État roumain, principauté, comme la Valachie. Un mot là-dessus. Les Roumains apparaissent dans l'histoire, leur nom apparaît au Xe siècle, à peu près en même temps que les Français, les Allemands, les Italiens. Mais, comme on disait, ils avancent masqués, parce qu'on ne les appelle pas Roumains, même si eux, ils se sont toujours appelés Roumains. On les appelle Vlach ou Valak, ou Blak, ou Blakoumen, ou Voloch en Russie, Vloch, Voloch, etc. Et il y a là tout un phénomène intéressant, puisque la première mention qui est faite d'eux, et qui est due à un empereur de Byzance, Constantin Porphyrogénète, le plus savant de tous les empereurs de l'Empire romain d'Orient, qui meurt en 959, les appelle Romani, donc Roumains. Mais tout de suite après, dans les décennies qui suivent, ils sont appelés aussi bien à Byzance qu'en Europe occidentale et dans les sources slaves, Vlach, sous différentes formes. Pourquoi ce nom-là? C'est parce que le terme de Romain, Romanus, au Xe siècle, à partir de 962, apparaît un empire romain d'Occident, le couronnement d'Otto, de l'empereur Otto de l'Empire romain d'Occident. Et donc, Romanus prend un double sens, soit habitant de Rome, les Romains, c'est normal, c'est jusqu'à aujourd'hui. Justement, j'étais à une audience chez Jean-Paul II, je me souviendrai toute ma vie, c'était juste l'année de son attentat, le pauvre. Il était lui aussi fatigué et il nous a reçus. Et moi, en voulant parader un peu, je lui ai parlé en italien. Et comme devant moi, il y avait eu déjà un Roumain, je lui ai dit « Anch'io sono romano ». Moi aussi, je suis Roumain. « Roumano ». Et le pape a dit « Ah, da Roma, da Roma ». Et moi, j'ai dit « Non, non, da Romania ».« Ah, da Romania, Romania ». Et heureusement qu'il y avait le recteur de l'Académie pontificale de Lublin qui a dit « Rumunski ». Ça, c'était en polonais, Et le pape, « Rumunski, ok, bon, vas-y ». Donc, vous voyez comment on fait des confusions de ce genre. Donc, Romanus, c'était au Xe siècle, citoyen de Rome, habitant de Rome, et deuxièmement, citoyen de l'Empire romain d'Occident. Donc cela signifiait une charge politique, un contenu politique, que les Byzantins, donc les Grecs, n'acceptaient pas du tout, parce qu'eux aussi, ils se considéraient, et à juste titre, romains. C'était l'Empire romain d'Orient qui avait été muté par Constantin le Grand, et alors que celui d'Occident avait disparu en 476, celui d'Orient a tenu encore 1000 ans. Donc, eux, ils s'appelaient, mais dans leur langue, en grec, Romaioi, Romei. Et donc, entre Romaioi et Romanoi, ils ont dit, bon, écoutez, appelons-les plutôt Vlach, parce que Vlach était le terme donné généralement par les peuples slaves et les peuples slaves et germaniques aux populations parlant le latin. Ça vient d'une tribu, les Volcae, les Volce, Volsc, et dont parle Jules César. Et c'est, cela signifiait pour les Allemands, pour les Germains, tout étranger qui parle une langue latine. Ceci est d'ailleurs un phénomène tout à fait universel. Les Grecs ne s'appelaient jamais Grecs eux-mêmes. Eux, ils s'appelaient et ils s'appellent Hélènes. Grecs, c'est le nom de la première tribu que les Romains, dans leur conquête de l'Épire et de la péninsule balkanique, ont rencontré. Et donc, du coup, ils ont étendu le terme à toute la population. Les Allemands, il n'y a que Tacite qui les appelle Germania, donc Germanie. Mais eux, ils avaient différents noms, et surtout, c'était le Deutsch, qui signifie donc le sens de peuple. Il y a un autre, j'ai noté quelque part. Voilà. Les Tchétchènes, pour vous donner un exemple plus. Les Tchétchènes, dont on a tellement parlé, ils ne s'appellent pas du tout Tchétchènes dans leur langue. C'est les Russes qui les ont appelés ainsi lorsqu'ils ont traversé la rivière qui les séparait. Le premier village sur lequel ils sont tombés s'appelait Tchétchène-Aoul, c'est-à-dire la ferme de M. Tchétchène. Et du coup, ils ont appelé tout le monde Tchétchène. Pareil pour les Ingouches, peuple voisin. Eux, ils s'appellent Galgaï. Eh bien, les Russes ont trouvé pareil village, la ferme de M. Ingouche. Donc, ils ont appelé Ingouche. Et ainsi de suite, les Tcherkesses et quelques autres. Il y a donc là un phénomène qui fait que certains peuples avancent masqués. Et cela explique peut-être en partie leur destin d'être peu connus, mal connus et méconnus dans l'histoire. C'est le cas aussi de la Valachie. Avec Dan, nous avons justement écrit un article sur la connaissance et l'écriture de l'histoire roumaine en France depuis 2 siècles. Et notre constat a été assez, pas tout à fait négatif, mais assez mélancolique, parce qu'il y a eu des périodes où la Roumanie était mieux connue, d'autres où elle avait complètement disparu. Et du coup, lorsque je suis arrivé en France, on me demandait « Ah, vous êtes roumain ? Ah oui, c'est ça, Budapest, n'est-ce pas ? C'est votre capitale, alors que c'est Bucarest. » Et d'autres disaient « Ah, Sofia même, etc. Et, » ou alors « Ah, vous parlez des langues étrangères ?» Oui, tous les Slaves sont très, très doués pour les langues étrangères, alors que ça, c'était une image que donnaient les aristocrates russes, genre Turgenev et d'autres au XIXe siècle, puisqu'ils parlaient des langues étrangères. Du coup, les Français étaient convaincus que les Slaves ont un don inné pour les langues, pour ne pas parler d'autres erreurs. Et donc, sur Dracula, je vous parlais du fait qu'issu d'un petit peuple, d'un petit pays, d'une histoire assez peu connue, il est devenu un mythe universel. Et la première question, c'est pourquoi donc ? C'est un peu comme Barbe Bleue, Gilles de Rais, lui aussi, issu d'un petit territoire. Après tout, c'était un seigneur de frontière, Anjou, Bretagne, Poitou. Et puis, Barbe Bleue, le comte de Barbe Bleue, on le retrouve dans toute l'Europe, au Canada, aux Antilles, etc., sous différentes formes. Qu'est-ce qui fait que donc un mythe devient connu et universel ? C'est parce que justement il correspond à quelque chose qui est profondément entré dans la conscience et dans la pensée des gens. Dans le cas de Dracula, il a été lié donc au vampirisme, et les vampires sont, on pourrait dire, l'expression d'une croyance et d'une curiosité, peut-être même d'un désir, des hommes depuis toujours de savoir ce qui se passera après la mort. C'est la vie après la mort. Est-ce qu'il y en a une vie après la mort? Et cela, on le voit, depuis que les gens ont commencé, les hommes, il y a plusieurs milliers d'années, ont commencé à enterrer leurs morts. Puisqu'avant, ils les laissaient soit sur une banquise, comme les Esquimaux, soit dans un arbre, comme d'autres, soit mangés par les animaux sauvages. À un moment donné, on commence à les enterrer, et même à les teindre le visage d'ocre, pour rendre une couleur de la vie. Ensuite, on leur met des petits objets familiers pour les enfants. On a trouvé des jouets. N'en parlons plus pour les grands personnages qui sont enterrés avec leur cheval, leurs épouses, en Asie centrale surtout, des armes, des bijoux, etc. Ou les pharaons égyptiens. Leurs pyramides sont des maisons, tout comme les kourganes d'Asie centrale. C'est donc la vie après la mort. Et il y a donc, dans la théorie, si vous voulez, la mort est un aller simple. Or, il y en a, on pense qu'il y a eu des rescueurs qui ont fait l'aller-retour, qui ne se sont pas contentés d'aller tout droit où ils devaient être, mais ils retournent pour hanter, surtout on dit, pour embêter les vivants. Et donc, pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait que, donc, depuis très longtemps, les sociétés humaines ont mis au point des rituels funéraires qui devaient assurer le départ sans retour du défunt. Or, il arrive que, parfois, il y a des erreurs, il y a des gens qui meurent dans des accidents, dans le cas de l'Église chrétienne, aussi bien catholique qu'orthodoxe, il y a aussi des rites très précis. Il faut avoir une cierge, faire la dernière, se confesser, etc. Si ces choses-là manquent, il y a toujours une suspicion que le mort ne viendra pas. Au XVIIIe siècle, on a constaté que le nombre de ce genre de manifestations était en grande augmentation. Et il y a des spécialistes, surtout des Français, qui ont découvert qu'en fait, c'était les enterrements trop rapides qui faisaient que, et l'absence de certificat de décès, qui faisaient qu'on enterrait souvent des personnes qui, à la suite d'un évanouissement ou d'une perte enfin, de conscience, étaient enterrées. Évidemment, il s'agissait des questions d'héritage, de se débarrasser de parents gênants. Et on constatait qu'après ça, de la tombe respective, on entendait des cris ou des manifestations, enfin des bruits, et cela effrayait les gens. Du coup, on a la proposition donc d'attendre 3 jours entre le décès et l'enterrement, de faire un certificat de décès par un médecin, parce qu'il fallait définir ce que c'était la mort, et finalement, pratiquer les enterrements en dehors des villes, c'est pour ça qu'on a cessé d'enterrer dans les églises parisiennes et autour, le cimetière des innocents qui était devenu une véritable souche d'infection, là, c'était pire que le marché de Wuhan, je crois, en Chine. Vu qu'on enterrait des dizaines et des dizaines de types sous la terre et évidemment toutes les épidémies et toutes les pestilences. Bon, donc ça c'est, si vous voulez, l'histoire un peu du vampirisme. Il y avait évidemment des croyances du genre les vampires qui viennent hanter les vivants sucent leur sang pour se maintenir dans une sorte de vie, ou alors qui boivent le lait du bétail selon les sociétés agraires et autres. Donc ce sont les non-morts qui viennent embêter les vivants. Il y a eu des études, dans mon livre j'en ai fait toute une description, qui ont montré qu'en fait il s'agissait là de manifestations surtout des paysans roumains, qui étaient dues aux longues périodes de jeûne, où les gens finissaient par souffrir de faim, et avaient donc des visions, et qui étaient suivies ensuite par des périodes de ripaille, à Noël et Nouvel An, où justement ensuite ils tombaient de nouveau malades. Mais ceci... c'est pour les vampires. Alors, on peut se demander quel est le lien entre Dracula, prince de Valachie au XVe siècle, et les vampires. Bon, je vais essayer de vous dire en quelques mots. Donc, la Valachie a eu, comme je vous disais, en arrière. Non, après. Voilà, donc, les ancêtres. Voilà. Dracula, de son prénom Vlad, a été un prince de la dynastie valaque des Bassarabes, dont voilà quelques membres du XIVe siècle. Au milieu, un prince et sa princesse, Radu, ou Vladislav, pardon. Et puis, le fondateur de la dynastie, et le grand, et à droite, Mircea, c'est le grand-père de notre Vlad. Vous voyez là. Il y a une autre illustration, on le voit, il meurt en 1418, on le voit, il est habillé en costume occidental, c'est-à-dire manteau court et comment ça s'appelle ça, des collants de couleur et un petit, une petite tunique bleue. Alors que son petit-fils, Dracula, Vlad, de son prénom, sera... un représentant typique de la mode turque. Ce personnage, donc, né en 1431, fils de prince lui aussi, s'appelait, a été surnommé Dracula, puisque son père, qui s'appelait aussi Vlad, le voici, il se ressemble, vous voyez, le même type de moustache, avait été fait chevalier dans l'ordre du dragon, un ordre de 1408, voilà, fondé par l'empereur Sigismond de Luxembourg, en latin, ordo draconistarum, en roumain, drac. Draco signifie diable, comme c'était d'ailleurs à l'origine, puisque ordo draconistarum, c'est le dragon qui représente le serpent, qui représente Satan, qui a tenté Ève, qui a tenté Adam, etc. Donc, c'est un Dracul, c'est d'ailleurs un nom méridional. J'ai rencontré un sympathique garagiste dans la Drôme, dans les années 70, il s'appelait Monsieur Tracol. Mais il avait un look de vampire, je vous jure. Mais il était très aimable. Mais bon, il faisait un peu peur. Le nom se rencontre d'ailleurs aussi dans la... en Dalmatie, c'est-à-dire en Yougoslavie, en Croatie et Albanie, au Moyen-Âge. Vlad, né vers 1431, pendant l'exil de son père, il sera le fruit surtout d'un long exil, parce que lorsqu'il monte sur le trône pour un long règne en 1456, donc à l'âge de 25 ans, il avait passé, j'ai calculé, entre 17 et 18 ans en exil. Il avait connu trois mondes. D'abord, le monde de Transylvanie. Ça, c'est la maison où il est né. La Transylvanie, qui fait partie de la Roumanie aujourd'hui, à l'époque, était partie intégrante du royaume de Hongrie. Et c'était une zone de population mélangée. Il y avait donc des Roumains, des Hongrois, et puis des Allemands, qu'on appelait Saxons, mais qui étaient en fait descendants de toutes sortes de groupes ethniques venus de la Flandre, de la Moselle, du Luxembourg, etc., et installés au XIIe et XIIIe siècle dans cette Transylvanie pour défendre et mettre en exploitation les richesses de la Transylvanie. Les Saxons avaient une organisation municipale et locale très forte, ils étaient donc des citoyens privilégiés, et c'était surtout des marchands et des artisans. Le deuxième exil de notre ami Vlad a été dans l'Empire ottoman. Il a passé là aussi au moins 4 à 5 ans en Asie mineure en tant qu'otage de son père, qui était donc prince de Valachie, mais vassal du sultan ottoman. Et lui et son frère cadet, Radul, ont passé là-bas plusieurs années. Et il a pu constater que le système turc de gouvernement, il lui semblait que cela devait correspondre mieux au caractère des Roumains. Parce que ce qu'il avait constaté déjà dans son enfance en Valachie, c'était que le pouvoir du prince régnant était limité par la grande aristocratie. Il y avait là une grande classe de boyards, vous les appelez boyards. Vous avez même en France un exemple tout à fait célèbre, Fort Boyard. Ça vient de là. Je suppose que c'est Napoléon qui a fait ce fort, je crois. Il a dû penser à un boyard, des gros personnages emmitouflés dans des immenses manteaux de fourrure, et qui passaient leur temps donc à la chasse, dans des banquets et des intrigues. Un peu comme la noblesse française avant Louis XIV, Louis XIII, qui les a bien domestiqués, et pour les tirer de leur château où ils s'ennuyaient et conspiraient, il les a invités à Versailles, et là, ils ont changé de comportement. Rien de cela dans l'Empire ottoman. L'Empire ottoman était une véritable méritocratie, puisqu'il y avait dans l'ensemble de la population peu de Turcs, ce qu'on appelait Turcs, et beaucoup de convertis et de non-Turcs, Grecs, Slaves, Albanais, etc., des gens qui avaient été assimilés donc, et devenus donc, soldats ou citoyens turcs, constituaient une véritable méritocratie. Il n'y avait pas de noblesse. Tout le monde était l'esclave du sultan. Donc le sultan nommait, vous nommait, le lendemain il pouvait vous démettre de vos fonctions, il vous confisquait tous vos biens, personne ne pouvait protester. Et donc ce type de gouvernement a dû plaire à notre ami Vlad, puisque une fois devenu prince de Valachie, il a essayé de l'imposer dans son propre pays. Et évidemment, là il a rencontré une résistance nobiliaire, et il s'est mis donc à sévir tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa politique. Il les traitait de façon très très sévère, et donc de là son sobriquet, parce qu'il a eu aussi un sobriquet roumain qui est l'empaleur. Ce monsieur pratiquait avec beaucoup d'application un système de punition qui s'appelait le supplice du pal et qui a été adopté, qui était adopté, enfin, c'est pas lui qui l'a inventé, ça vient des Assyriens déjà, mais Matthias Corvin, son contemporain roi de Hongrie, et Mahomet II, son contemporain turc, l'ont aussi pratiqué sur de grandes échelles. Mais il n'y a que notre ami Vlad qui en a pris le surnom, l'empaleur, parce que ça a frappé les imaginations. Et donc, il a, dans son pays, il s'est déclaré dès le départ adepte fidèle donc, au roi de Hongrie, décidé de partir en croisade à laquelle faisait appel le pape Pie II, et de combattre les Turcs ottomans qui avaient imposé des durs impôts à la Valachie et avaient maltraité dans le temps son père. L'intérêt de la Valachie pour ses puissances voisines était dérivé de sa position géopolitique et stratégique, puisque la Valachie et la Moldavie, ensemble avec la Transylvanie, se trouvaient au point de jonction de deux grandes routes internationales de commerce. Il y avait une qui venait, c'était le commerce d'Asie, qui venait en principe de Chine. Dès le XIIIe, XIVe siècle, avec l'Empire mongol, la paix mongole avait réussi à stabiliser et à sécuriser les contacts de ce que veut faire aujourd'hui Xi Jinping en Chine, donc une nouvelle route de la soie. Et donc on pouvait voyager de Pékin jusqu'à la mer Noire, en principe, sans effort, enfin sans difficulté, en toute sécurité. Il y avait donc une route qui arrivait à la mer Noire et qui traversait sur la rive orientale, arrivait sur la rive occidentale, ici. Et donc, vous voyez là-bas, à l'extrémité sud de la Moldavie et de la... donc en bleu, Cetate Alba et plus bas, Kilia. Ces deux forteresses étaient une, Cetate Alba, était celle qui, d'où la route partait vers le nord, par la Moldavie, la Pologne du Sud, la Baltique et de là dans les pays hanséatiques, Allemagne, etc. Tandis que de Kilia plus bas, qui était sur le Danube, une route traversait la Transylvanie, arrivait par Brașov, Sibiu, ensuite allait vers Budapest et le sud de l'Allemagne, Nuremberg et les grandes villes commerçantes allemandes. Donc il y avait là ces deux routes, plus la continuation dans le sud, celle-ci par la Valachie, qui arrivait soit à l'Adriatique, soit à Constantinople, et celle de la mer Noire qui, par le cabotage, arrivait toujours à Constantinople. Donc, de la circulation sur ces routes, les princes de Valachie et de Moldavie touchaient des énormes revenus de douane, c'est-à-dire importation, exportation, transit. Et il fallait que la paix règne dans ces régions, sinon le commerce était en danger, plus de revenus. Donc, ce qui comptait, c'était que les puissances voisines soient en bonne entente pour que les affaires puissent fonctionner sans accroc. Et de cela, évidemment, les princes de Valachie et Moldavie étaient les premiers intéressés, sauf que cela ne dépendait pas d'eux, puisque au sud, il y avait cet empire ottoman qui avait dans ses gènes, on peut dire, dans son ADN, la guerre sainte. C'était l'islam qui devait combattre les non-musulmans sans arrêt. Et de l'autre côté, il y avait la Hongrie, déclarée royaume apostolique, donc par le pape Sylvestre II, en 1996, je crois, ou 1000, qui, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, royaume apostolique avec mission, pareillement, de croisade perpétuelle envers les infidèles. Ces deux puissances se rencontraient donc sur une longue ligne qui touchait les pays romains et du coup, les princes de Valachie étaient vassaux du roi de Hongrie et tributaires des Turcs. Il y avait donc une double dépendance et leur stabilité dépendait de l'état de paix entre ces deux puissances. Donc, il fallait vraiment des talents de funambule pour se débrouiller entre les Turcs et les Hongrois. Et c'est ce qu'avaient réussi d'autres princes avant lui. Notre Dracula, lui, dès le départ, se déclare pour les chrétiens, mais il constate que les chrétiens se disputent entre eux, que la couronne hongroise est disputée par la grande noblesse et que finalement, quand un roi est élu en 1458, c'est Matthias Corvin qui était un vague cousin à lui, en fait, puisque par son père, il était d'origine romaine. Et il met tous ses espoirs dans ce jeune prince et dans sa capacité à combattre Mahomet II, qui lui-même était encore un très jeune homme à l'époque, et qui avait déjà conquis Constantinople en 1453. Entre les deux, son cœur n'a pas balancé. Il a été dès le départ acquis aux chrétiens, et il a montré que son attitude, ouvertement, à partir de 1461-62, lorsque ne payant plus de tribut aux Turcs, ne se présentant plus à la porte ottomane pour embrasser le pantoufle du sultan, il a été déclaré rebelle. Et du coup, le sultan essaie d'abord de l'éliminer par la ruse. Il envoie une délégation afin de discuter des problèmes de frontières, mais apprenant la chose, Vlad les arrête et les empale, et surtout le pacha turc qui dirigeait l'expédition est empalé sur un pal doré et plus haut que la moyenne. C'était sa façon à lui de marquer Et donc, Mahomet II, furieux, décide une grande campagne dirigée par lui-même pour l'année d'après, 1462. Vlad demande de l'aide, ça ne vient pas du tout de Hongrie. Le roi Mathias avait d'autres chats à fouetter et donc il est seul contre les Turcs et un combat désespéré a lieu. Le sultan n'atteint pas son projet, ne réussit pas, puisque Vlad reste sur le trône, même si le pays est horriblement pillé par les Turcs. Mais finalement, c'est son frère Radu que Mahomet II laisse à la frontière et qui attire les mécontents. Il y avait beaucoup de mécontents dans le pays de Dracula, vu que ses manières à lui ressemblaient plutôt à celles des Ottomans, des Turcs, que des chrétiens. Sa sévérité, nous disent les sources, était terrible, et donc si quelqu'un volait ou faisait des crimes, il était très sévèrement puni. Et donc, dans ces conditions, il est arrêté par le roi de Hongrie, mais mis dans une forteresse qui était l'ancienne résidence du roi de Hongrie, sur le Danube, et il est éliminé de la politique pendant 13 ans. Pendant ce temps-là, justement, la chrétienté s'était émue parce que le pape Pie II avait appelé en 1459 le monde chrétien à la croisade, et Vlad était un de ceux qui avait répondu parmi les premiers. Or, comme Mathias Corvin était son suzerain, c'est à lui que le pape a accordé de grosses sommes d'argent et de l'aide pour mener la guerre, la croisade contre les Turcs. Or, Mathias Corvin avait d'autres priorités à l'époque, c'était le rachat de sa couronne de l'empereur Frédéric III, qu'il avait confisqué dans des circonstances complexes. Et sans couronne, il n'avait pas assez de légitimité en Hongrie. Vous savez que la Hongrie, même aujourd'hui, a dans les armoiries une couronne qui a une croix tordue. C'est une couronne byzantine à l'origine qui a été donc le symbole de l'unité et de l'unité du peuple et de la Hongrie. Donc sans couronne, pas de légitimité. Et du coup, Mathias Corvin n'a rien fait pour aider Vlad, il l'a même mis en prison, et pour se justifier de cet acte, on reçoit de l'argent, des encouragements pour combattre les Turcs, et puis on arrête celui avec lequel on devait partir. Il a envoyé dans toute l'Europe des lettres en expliquant que, en fait, Vlad Dracula était un traître, et qu'il il ne pouvait pas l'aider parce que celui-ci voulait le livrer aux Turcs ottomans. Et surtout, à partir de ce récit, un livre a été imprimé à Vienne en 1463. J'ai écrit un article, j'ai mis ça aussi dans mon livre parce que l'exemplaire ne s'est pas conservé, mais il y a 4 copies qui sont très clairement copiées d'après ce premier livre. C'était ce qu'on appelle un incunable, c'est-à-dire un livre dans le berceau, incunabulum. C'était, n'oubliez pas que l'imprimerie n'avait que 9 ans. Gutenberg avait imprimé son premier livre en 1454, la Bible. Et surtout, il n'y avait pas de livre avec des images. Or, celui-ci avait des images. C'était le portrait de notre ami. Là, c'est le même, mais il y a un exemplaire colorié à la main aux États-Unis. Et puis il y en a d'autres, puisqu'il y a eu 14 éditions de cet ouvrage en allemand qui raconte les horreurs de Dracula. C'est donc le point de vue, ça c'est le sultan, ça c'est le Matthias Corvin, et voilà une illustration. C'est paru à Strasbourg en 1500, où on le voit festoyer devant une forêt de pales, de gens en palais. Et donc ce pamphlet en allemand a circulé dans toute l'Europe. Il a inspiré aussi un autre écrit en russe ancien, en slavon, qui lui a circulé en Russie, en beaucoup de manuscrits, mais n'a jamais été imprimé. Et c'est ça qui a fait la, si vous voulez, la célébrité de Dracula, parce que il est donc la première victime de la propagande politique par la presse, par l'impression. L'art de l'impression était tout à fait à ses débuts, et c'est le premier donc qui a été victime de cette propagande. Le contenu, ce sont des petites anecdotes qui montrent différents aspects de la vie de Dracula, ce qu'il faisait aux uns, aux autres, et la façon dont il traitait les ambassadeurs, les autres princes. Bref, c'était le portrait d'un tyran, pire que Néron, pire que Dioclétien, pire que... attendez, qui ce sont les autres, enfin des noms de grands tyrans. Et il a circulé donc surtout dans les villes allemandes de marchands, vu que une des catégories qui avait été pénalisée par Vlad était les marchands allemands qui venaient en Valachie et ne respectaient pas ces réglementations. Et donc, là, dans le domaine du commerce international, la loi était très sévère, mais elle n'était pas tellement appliquée. Or, notre homme a appliqué cette loi, et du coup, ça lui a créé beaucoup de mécontents. Il a donc passé quelques années dans une captivité dorée. Il était marié, d'ailleurs, il a épousé une cousine du roi Matthias Corvin, c'était un prisonnier de marque, et en 1475, il a été sorti de la naphtaline, si on peut dire, et réutilisé par Matthias Corvin pour combattre les Turcs. En 1476, il a récupéré son trône, mais il n'a pas tenu longtemps parce qu'il a été donc surpris à Noël, pendant les fêtes, au Nouvel An, par un adversaire, c'est celui-ci, un cousin lointain, parce que c'était toujours entre cousins que ça se passait, frères, cousins, neveux, ils avaient tous le droit et la légitimité à régner. Donc c'était celui qui s'imposait et qui éliminait les autres. Et donc il a été décapité, sa tête vidée et nettoyée, remplie de coton, a été portée au sultan Mahomet II, qui l'a fait expertiser, et ensuite il l'a posé sur le mur du sérail, du palais impérial de Constantinople, pour que tout le monde la voie. Ensuite, il paraît qu'elle a été envoyée en don au sultan d'Égypte ou à quelqu'un d'autre. C'était juste une façon de marquer sa magnanimité. Avec sa mort, justement, sa gloire a continué. Et je vous disais, ses impressions, ses pamphlets, c'est ici qu'il a été enterré, oui. Ça, c'est une église dans un monastère à 30 km nord de Bucarest. Et c'est ici que, selon la tradition, il avait été enterré. Et on a découvert son corps en 1933-34, oui. Dans des conditions qui m'ont été racontées par les deux archéologues qui ont découvert. C'était la tombe était dans l'axe central de l'église. Jusque-là, les moines disaient il est enterré juste devant le maître-autel. Il y avait une grande pierre. quand ils ont soulevé la grande pierre, il n'y avait rien en dessous, juste des ossements animaux. Et donc, ils ont fait une... comment s'appelle ça, une section, oui, par le centre, et c'est là qu'à 2-3 mètres de profondeur, ils ont trouvé la tombe sur laquelle la pierre respective du maître-autel allait parfaitement, et c'était un jour d'été où le soleil couchant, venant de l'eau vers l'ouest, entrait dans l'église, et les deux archéologues, qui n'étaient pas préparés, n'avaient même pas un appareil de photo, ont vu le corps entier qui s'est décomposé sous leurs yeux en quelques minutes, parce qu'il était en parfait état de conservation. Le personnage est mort, je vous disais, décembre ou janvier. Dans ces conditions-là, les cadavres ne pourrissent pas. Et le sol aussi, c'est sur une île au milieu d'un lac, ça a dû jouer... puisqu'il était intact. Et ils ont vu comment il s'est décomposé. Et bon, ils ont rassemblé des vêtements, des pièces. Et ils étaient assez dubitatifs. Est-ce Vlad ou pas? Et moi, je leur ai posé la question, mais dis-moi, est-ce qu'il avait sa tête ou pas? Parce qu'on sait que les Turcs lui ont coupé la tête et l'ont porté à Constantinople. Et ils m'ont dit, oui, il avait sa tête, il y avait un mouchoir, enfin, un tissu rouge, sur la tête. Au début, je me suis dit, ah, donc ce n'était pas lui, puisqu'il avait sa tête. Et il a fallu que j'arrive à Paris, que je fasse des études, et surtout que je contacte des turcologues, et d'apprendre que les Turcs n'emportaient pas la tête. Ils emportaient le scalp, le visage, la peau du visage, et les cheveux, parce qu'ils considéraient comme tout à fait impur le fait de tenir un crâne par la main dans la bouche, parce qu'on ne peut pas le tenir autrement. Donc, ils avaient des spécialistes qui enlevaient la peau. Cette peau était ensuite maquillée pour faire beau, rouge, etc. Et remplie de coton et d'herbe, et mise dans une boîte. Et c'était ça qui était exposé, non pas le crâne. Donc, je dis, quand j'ai lu là, donc c'est lui, c'est Dracula, et c'est lui. Et bien, à l'époque, dans les années 60-70, quand j'étais en Roumanie, on pouvait aller là-bas, regarder sans problème. Bon, ce n'était pas la tombe réelle, mais celle qui était devant le maître-autel. Le prêtre vous permettait de photographier, etc., sans problème. Aujourd'hui, c'est 10 dollars la minute ou quelque chose comme ça. Et il y a eu une telle affluence de gens qu'ils se sont bien enrichis. Donc, Dracula, Vlad, toi, l'empaleur, a été pratiquement oublié dans son pays. Dans les chroniques officielles écrites au XVIe, XVIIe siècle, on ne parle pas de lui. Même ses descendants, dont certains ont régné, ne mentionnent pas. Ils préfèrent mentionner la parenté avec la famille de Matthias Corvin. Et il a fallu attendre le début du XIXe siècle pour que des historiens allemands redécouvrent le personnage et redécouvrent surtout les pamphlets allemands. Et à partir de là, on a découvert aussi les pamphlets russes, l'avons, et l'image de ce prince a été enfin intégrée dans l'histoire roumaine. C'était l'époque où se créait l'État national roumain, formé en 1859 par l'union de la Valachie et de la Moldavie, et la nouvelle petite Roumanie avait besoin évidemment de la nation, de se créer un passé héroïque. Or, dans le passé héroïque, il n'y en avait pas beaucoup de monde. Et en revanche, notre ami Vlad était parmi les très peu nombreux qui non seulement s'étaient battus contre les Turcs pour défendre le pays, mais avaient affronté même le conquérant de Constantinople, Mahomet II. Ce n'était pas à la portée de n'importe qui. Et c'était ce qu'avait fait aussi son cousin de Moldavie, Étienne le Grand, qui a été son contemporain. Mais d'autre part, en lisant les pamphlets, en voyant quelle horreur avait fait ce personnage, d'autres historiens ont dit, mais comment est-ce possible? C'était un monstre, c'était quelque chose d'épouvantable. Donc le débat n'était pas clos, mais finalement c'est l'intérêt patriotique qui a dominé, et ça, il a été intégré dans l'histoire comme un prince sévère mais juste. C'est ce qu'ils sont. En 1896, justement, est parue la première synthèse importante sur lui, où l'auteur roumain le traite de monstre de l'humanité, etc. Une année plus tard, Bram Stoker sortait son roman où Dracula, comte Seclair, c'est une population hongroise de Transylvanie, roi des vampires, rêve de conquérir la Grande-Bretagne, l'Empire britannique. Bram Stoker était irlandais, n'oubliez pas. Pour cela, il achète une abbaye Carfax, je crois, abandonnée à Londres, pour établir là son quartier général, d'où son armée d'ombre allait partir à la conquête de l'Empire britannique de la reine Victoria. La célébrité de Dracula est devenue une réalité après la Première Guerre mondiale, et à partir de là, ça a été un crescendo, d'abord en Europe et ensuite aux États-Unis, où il a été non seulement mis au théâtre, mais aussi en film, cinéma, après le très beau film de Franz Murnau, Nosferatu, le vampire, qui est aussi Dracula. Et en Amérique, grâce d'ailleurs à un acteur de Transylvanie, Bela Lugosi, qui a joué donc le premier Dracula et le dernier le plus formidable, enfin l'avant-dernier. Ça a été un Anglais, Christopher Lee, mais d'origine italienne par ailleurs. Et finalement, Gary Oldman, dans le film de Coppola, Dracula, qui est le nec plus ultra. Et on a constaté que la personnalité et l'intérêt pour les vampires suivaient certaines modes. Dans les périodes de prospérité, on n'en parlait pas tellement. Dès qu'il y avait des crises ou des situations internationales difficiles, hop, ça repartait. À partir de 71-72, le vampire a changé de caractère. Ce n'est plus un comte des Carpates, ni un aristocrate fou, ni un paysan illettré, mais c'est un personnage comme vous et moi, grâce à Anne Rice. Anne Rice, qui a fait entretien avec un vampire, interview avec un vampire, Lestat, c'est un nom qui a un nom français, a transformé le vampire en un jeune homme très sympathique, et du coup, les vampires sont devenus une sorte d'autre alter ego de notre jeunesse, surtout, parce que pour les jeunes, ça a eu énormément de succès. Je me souviens que ma fille adorait Buffy et les vampires. C'était un feuilleton américain qui a duré des années. Elle était scotchée, là. C'était quelque chose. Elle s'identifiait à Buffy, bien sûr, qui battait les vampires, elle était très forte, mais elle avait des amis. Donc, à partir donc d'un personnage historique, vous voyez comment se crée un mythe. Dans le cas de Barbe Bleue Gilles de Rais, c'est le mythe qui a préexisté. Parce que Barbe Bleue, le tueur de femmes, est un mythe qui date depuis les débuts de l'humanité. Je ne sais pas depuis quand. Les hommes tuent leurs épouses. Ça. Et ça continue encore de nos jours. Vous voyez que ce n'est pas très politiquement correct. En pleine époque de féminicide et pédophilie, de s'occuper de Barbe Bleue. Mais j'insiste parce qu'il y a cette particularité que Gilles de Rais était connu comme pédophile. Lui, il violait et tuait des enfants. Or, il a été identifié à un personnage, Barbe Bleue, qui tue des femmes. Et jusqu'ici, la plupart des spécialistes ont dit, mais on ne peut pas expliquer ça, c'est faux. Il n'y a pas Il n'y a pas d'identité entre les deux. En toute humilité, je dois vous dire que je pense avoir découvert là l'explication. C'est parce que dans l'index général des contes populaires qui a été fait par d'abord des Finlandais, puis par des Américains, Steve Thompson, enfin, un ouvrage en 7-8 volumes énormes où tous les sujets contenus dans les contes populaires sont indiqués avec indication, sous la rubrique « Enfants », vous avez plusieurs pages d'enfants qui ont été mangés, qui ont été abandonnés par leurs parents dans la forêt, le petit poussé, qui ont été maltraités par des sorcières, Hänsel und Gretchen, etc., etc. Mais jamais, même des enfants à barbe, retenez ça, mais jamais des enfants violés. Et pour cause, l'enfant n'est pas un objet, n'a pas de sexualité dans la mentalité populaire, donc il ne peut pas faire l'objet d'un... il ne peut pas jouer le rôle d'une femme ou d'un homme. Et c'est ce qui explique que lorsque les paysans angevins, poitevins, bretons, vendéens ont connu l'affaire de Gilles de Rais, ont commencé à la transmettre, l'idée qu'ils violaient et tuaient des enfants a glissé vers le viol et surtout le meurtre d'épouse, de femme. Surtout qu'on sait que lorsqu'il a été brûlé vif, il a été condamné à être brûlé vif. Et lorsque, attaché au poteau, le feu a été mis, un groupe de jeunes femmes et de demoiselles de très haute lignée, 6 ou 7, sont venus, ont pris le cadavre et sont partis pour l'enterrer dans le couvent Notre-Dame des Carmes à côté. Et les gens, comme on dit, n'y ont vu que du feu, puisque à ce moment-là, il y avait de la fumée. Et c'était une pratique médiévale, on sait. Quand quelqu'un était riche, la famille payait le bourreau pour qu'il étrangle le condamné, afin qu'il meure avant de souffrir la brûlure. Donc, il a dû être égorgé par le bourreau, et la famille, enfin ces jeunes femmes, l'ont emporté. Ça a marqué les esprits. Et on voit à partir de là, même des historiens contemporains, des gens qui vivaient à l'époque de Gilles de Rais, bon, ils n'étaient pas à Nantes, mais en France, qui disent qu'ils tuaient des femmes, des enfants, etc. Et ensuite, il ne reste que des femmes. Donc il y a eu un glissement du fait que ces relations sexuelles avec enfants n'entraient pas dans les catégories de la mémoire collective. La mémoire collective a des catégories, elle ne retient pas des individus. C'est pour ça qu'elle ne dit pas Gilles de Rais, elle appelle Barbe Bleue, mais en revanche, les gens au XIXe siècle, au début du XXe, identifiaient le château. C'est le château de Barbe Bleue. C'était toujours le château de Gilles de Rais. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Je m'excuse, je vous parle de Barbe Bleue, alors que j'étais censé parler de Dracula, mais ça me passionne tout autant. En 1975, je suis allé, ma femme et moi, sur le terrain pour à Tiffauges, le château principal de Gilles de Rais, pour voir comment où avait été enregistré le conte populaire. Le conte populaire, encore en 1950. Donc, c'était un dimanche, j'avise une maison, on voit par la fenêtre une table, il y avait une dizaine de personnes âgées en train de parler. J'entre, non, je toque à la porte, j'entre, je me présente et je dois vous avouer, à l'époque, j'avais une grosse barbe noire, des cheveux longs et je portais un costume de blue jeans que je venais d'acheter. J'étais donc depuis 2 ans en France, je trouvais ça le chic du chic. Et quand ils m'ont vu, j'ai dit, brave Jean, connaissez-vous l'histoire de Gilles de Rais? Ça a été... De Barbe Bleue. Et ils se sont enfuis. Tout le monde a fichu le camp, à part la dame qui était la propriétaire, et qui m'a dit, non, allez, sortez. Mais bon, pour un peu, elle m'aurait jeté de l'eau bénite, là, pour me chasser. Et un monsieur qui était un ancien député, homme d'affaires, né dans la région, il m'a dit, mais ici, ça c'est très sérieux, les gens y croient. Moi-même, quand j'étais enfant, ce conte de Barbelon, il les racontait à tous les enfants. À la différence de ça, Dracula, en Roumanie, jamais. Vlad l'Empaleur, jamais. J'avais à la fac d'histoire de Bucarest une collègue qui m'a avoué que lorsqu'elle était petite fille, ils avaient à la maison donc une reproduction d'un portrait de Vlad l'Empaleur. Elle priait à Vlad l'Empaleur comme un saint, parce que c'était une famille aristocratique qui avait été chassée de leur maison. Ils vivaient une hutte épouvantable, mais vraiment, on n'imagine pas. Ils étaient très malheureux et elle priait. Elle a dit, pour moi, c'était comme un saint. Mais c'est le seul cas que je connaisse. Donc, vous voyez, les mythes ont une formidable circulation. Ça ne circule pas en Roumanie, mais aux États-Unis, c'est de la folie, Dracula. Vous dites Dracula, c'est quelque chose d'extraordinaire. Barbe bleue, c'est pareil. Le conte a énormément circulé, mais en ces jours où je vous dis où on parle tellement de féminicide et de pédophilie, il vaut mieux ne pas trop l'évoquer parce qu'il accumule les handicaps. Ce qui rend la chose passionnante, c'est de voir la transformation, l'identification des personnages historiques et la façon dont ils ont été englobés dans des mythes, absorbés par le mythe. Et ça, le mythe, dans le sens premier, parce que le sens second, mythe, c'est la même chose que légende en latin, legenda, donc chose à lire, une histoire qui est vraie, n'est pas vraie. Mais à l'origine, c'est comme ça que les sociologues le comprennent, c'est un fait qui s'est passé dans un passé premier, un fait inaugural de grande importance qui a joué donc un rôle dans une communauté et pour les humains. Et là, donc, on voit avec Dracula que c'est cette curiosité pour la vie d'après la mort. Et je ne sais pas si vous avez remarquez, l'autre jour, on a appris qu'à la télévision sud-coréenne, il y a eu une émission, une jeune femme, une jeune maman, qui avait perdu sa fillette de 5 ou 8 ans, et elle avait morte à la suite d'une maladie. Eh bien, on lui a permis, par un système que je ne saurais pas décrire, parce que je suis nul en de s'entretenir avec sa fille en images composées, donc comme si sa fille était vivante, et la mère, donc, qui ensuite s'est effondrée et tout. On se demande à quoi ça sert. Bon, peut-être pour voir que la science peut faire des tas de choses, mais c'est comme tous ces gens-là qui s'intéressent aux vampires, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, pourquoi est-ce qu'ils viennent nous embêter. Ce sont des mythes d'une telle ancienneté, d'une telle force, qu'on peut dire qu'ils sont constitutifs de notre nature humaine. Je crois que j'ai déjà abusé du temps, non? On ne nous a pas mis à la porte. Je suis très reconnaissant. Donc, je vous remercie pour votre attention.